Et nous allons voir ce matin acte 3, donc la suite de ce que nous avons vu il y a deux semaines en arrière. Acte 3, versets 12 à 26, c'est-à-dire la suite de ce qui s'est passé avec Pierre et Jean et le paralytique. Hein, Pierre et Jean qui avaient, dans le chapitre 3, ils avaient rencontré ce paralytique qui était dans le temple. Et puis Pierre le guérit. Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or ». Mais ce que j'ai, je te le donne, n'est-ce pas? Et il le guérit au nom du Christ. Ce paralytique qui, désormais, marche, retrouve la force dans ses pieds. Et puis on nous dit que les gens qui ont assisté à cette guérison étaient remplis de stupeur et d'étonnement. Remplis de stupeur et d'étonnement à la vue de ce paralytique qui maintenant marchait et sautait en louant Dieu. Ils marchaient, sautaient en louant Dieu, et ils accourent, le peuple accourt vers les apôtres, puisque le paralytique ne quittait pas les apôtres, et ils accourent vers les apôtres dans celui qui est du temple qu'on appelle le portique de Salomon. Le portique de Salomon. Alors peut-être pour rappeler, pour nous situer cela géographiquement, où se trouvait le portique de Salomon dans le temple, on va faire peut-être un petit résumé. Un petit rappel ou résumé pour certains de comment était constitué le temple d'Hérode au 1er siècle. Vous aviez plusieurs parties. Hein. Je le fais un peu en. À peu près, hein, c'est pas dans une dimension. C'est pas très large. Hein. Voilà, c'est pas léché, exactement. Mais en gros, voilà, un petit peu les quatre sections. Et vous aviez donc ici ce qu'on appelait la cour des païens. La cour des païens, on rentrait souvent par là, donc il y avait un grand escalier où on pouvait y rentrer. Là, c'était vraiment une place publique, très publique, pour les païens, pour les israélites, qu'on appelait en U, hein, vraiment toute cette partie-là, c'était la cour des païens. Cette cour des païens était séparée d'une autre cour par une porte, ici, qu'on appelait la porte Labelle. D'accord ? C'est devant cette porte que le paralytique a été guéri dans le chapitre 3, dont Dieu nous a parlé. Donc là, vous aviez la porte Labelle. Ensuite, vous rentriez dans une cour qui s'appelait la cour des femmes. D'accord ? C'est-à-dire que les femmes pouvaient aller jusque-là, mais elles ne pouvaient pas aller plus loin. Ensuite, vous aviez une autre porte, ici, qu'on appelait la porte Nicanor. Une magnifique porte, vraiment imposante. Et vous aviez ici la porte Nicanor. Est-ce que j'ai fait juste? Oui, j'ai fait plus ou moins juste. Non, ça va. Porte Nicanor, d'accord. Et puis, ici de côté, encore, après cette porte, vous aviez ce qu'on appelait la cour des hommes. De côté, ici. Et là, par cette porte de Nicanor, vous rentriez dans ce qu'on appelait la cour des prêtres. Cour des prêtres. C'est-à-dire, là, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient entrer. Il y avait l'autel. Il y avait, vous savez, vous rappelez, cette mer de bronze ou pour les ablutions. Donc c'était cette partie-là qui était réservée exclusivement aux prêtres. Et puis ici, vous avez vraiment le lieu saint. Enfin, lieu saint ici. Et puis le sanctuaire, donc séparé ici par un voile. D'accord ? Vous avez le sanctuaire qui était ici, plus ou moins. Hein. Je fais assez schématiquement les choses. Sanctuaire. Alors, ce qui se passe, c'est que le paralytique était ici. D'accord ? Il était placé là. Et ce n'était pas inintelligent de le placer ici. Pourquoi ? Parce que dans la cour des femmes, juste ici, vous aviez ce qu'on appelait le tronc, c'est-à-dire le trésor du temple. Les gens rentraient par la belle porte. Et juste à droite, il y avait 13, si vous voulez, 13 poches sous forme de trompettes dans lesquelles les gens mettaient de l'argent au temple. Et c'est ici que Jésus a fait remarquer, vous rappelez, cette pauvre veuve qui a donné les deux pièces d'argent, il était assis en face du trésor, et il a vu les gens qui donnaient justement du trésor au temple, enfin de l'argent au temple. Donc quand quelqu'un rentrait par là pour donner de l'argent au temple, bah, en passant par la belle porte, en voyant le paralytique, bah, il pouvait se dire, bon, bah, je vais lui donner quelques piècettes. Donc c'était, encore une fois, vraiment opportun. Pas inintelligent, si on peut dire ça comme ça, bien, bien réfléchi, bien calculé, de poser ce paralytique juste là, avant que les gens rentrent pour donner de l'argent
au trésor. Donc Doug nous a expliqué rapidement ces choses-là. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il est guéri, le paralytique, les apôtres vont se rendre ici, donc vraiment à l'extrême est, vers ce lieu qui s'appelle le portique de Salomon. Pourquoi le portique de Salomon, portique ? Parce que c'était un véritable mur porteur, d'accord ? Un mur porteur vraiment imposant, magnifique. Joseph, l'historien Joseph nous dit que c'est un mur absolument imposant et magnifique. Et on pense que c'était les vestiges encore du temple de Salomon. D'accord ? On pense que ce mur était vraiment un vestige du temple de Salomon, qui était évidemment après magnifié, embelli par Hérode. Mais ce mur marquait en fait l'extrême est de toute la ville de Jérusalem. Parce qu'après, vous aviez ce qu'on appelle la vallée de Kidron, de Cédron, d'accord ? C'est-à-dire vous sortiez de la ville de Jérusalem pour aller dans le pays. Ok ? Par l'est.
Sur les arcades.
Exactement. Donc, le discours que nous allons étudier ce matin se trouve vers cette partie extrême est, vraiment tout à l'est du temple d'Hérode. On se retrouve ici avec Pierre et Jean. Et Pierre va donner un discours qui est absolument puissant, vraiment un discours d'évangélisation, très très fort, au peuple qui a couru, en voyant ce paralytique qui était guéri, dans cette région-là, de la cour des païens. On est dans la cour des païens.
Pardon, il y avait beaucoup d'enseignements dans ces portiques.
Oui, bien sûr.
Ça, voilà, il y a des colonnes, exact. Les gens sont là pour parler.
Exact. C'était vraiment une place très très vivante. C'était la place, c'était pas la place du marché, mais... Exact, mais une place très publique, les gens venaient ici et là, et c'était très propice, justement, aux enseignements. Donc, vraiment, un lieu, voilà, il y avait tout le monde, donc un lieu très propice pour qu'il y ait un plus grand nombre pour enseigner. Tout à fait, j'apprécie toujours ce genre d'ajout. Non, justement, c'est très important. Ça, c'est vraiment, si on veut dire, le noyau dur, un peu le noyau dur du temple, c'est-à-dire le lieu saint et le sanctuaire. Et le temple, quand on parle du temple d'Hérode, c'est toutes ces parties-là. Et chaque fois, il y avait une progression, chaque fois on excluait une catégorie sociale lorsqu'on devait rentrer, lorsqu'on se rapprochait du Saint des Saints, n'est-ce pas ? Donc, il y avait cette progression qui était faite dans ce cadre-là. Alors, on va lire la première partie de ce passage. Vous allez voir que je vais beaucoup passer dans la première partie, un petit peu moins dans la deuxième, mais je crois qu'il est vraiment très très important de bien comprendre la première partie de ce passage. On reviendra aussi dans les évangiles pour comprendre les propos de Pierre à cette foule qui a accouru ici au portique de Salomon. Alors, lecture, on va faire une lecture dans Actes 3, 12 à 18. 12 à 18 dans un premier temps. Pierre a cette vue, donc portique de Salomon, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. » Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc. Et on lira la suite après. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte de ce passage, pour bien comprendre ce que Pierre veut dire à cette foule au portique de Salomon, il nous faut revenir
dans les évangiles. Il nous faut revenir à ce qui s'est réellement passé. Et pourquoi? Pourquoi Pierre va dire au peuple que vous avez aussi votre part de responsabilité dans la crucifixion du Christ? Alors, Pierre est en train ici de faire référence à la comparution de Christ devant Ponce Pilate. N'est-ce pas? Il dit, Ponce Pilate avait jugé bon de le relâcher. Et donc, nous sommes ici, alors vous allez voir, je vais être un tout petit peu procédural ce matin, mais nous sommes ici dans le volet du procès romain du Christ. Nous sommes dans le volet du procès romain du Christ. En fait, Jésus, on va voir cela assez rapidement, on n'a pas le temps, ça pourrait être une étude vraiment intéressante, Jésus a eu deux procès formels. Il a eu un procès juif devant le Sanhédrin, et puis il a eu un procès romain devant Ponce Pilate. Alors je ne parle pas de son audition devant Hérode, parce qu'il n'y a que Luc qui en parle, mais tous les évangiles parlent du procès du Christ devant Ponce Pilate. Mais en réalité, le Christ, son vrai procès, le procès, j'ai envie de dire, informel, a eu lieu déjà avant, quelques jours avant, et qui nous est relaté dans Jean, chapitre 11, versets 47 à 50 et 53, où on nous dit ceci. Donc Jean 11, versets 47 à 50 et 53. On nous dit que, alors, les principaux sacrificateurs, donc les autorités religieuses principales, et les pharisiens, donc le parti politique le plus important, celui qui tenait les écoles, les synagogues, assemblèrent le Sanhédrin, c'est-à-dire la plus haute autorité politique du pays, et dirent, et ça, ils le font après que Jésus ait guéri Lazare. Rappelez, là, les autorités s'inquiètent. Que ferons-nous? Car cet homme, le Christ, fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. D'accord? Donc, il y a un véritable souci, comme on dit, politique. Et en politique, souvent, il y a un grand principe qu'on appelle le principe du moindre mal. C'est-à-dire, il vaut mieux, pour éviter le soulèvement de tout un peuple contre Rome, et que Rome vienne envahir la nation, il est préférable qu'un seul homme meure, plutôt que toute une nation qui périsse. D'accord? Donc, le Christ inquiète. Le Christ est un peu le mouton noir qui ne plaît pas dans le paysage politique des autorités juives. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Après, on dit qu'il a prophétisé. Et on nous dit, verset 53, « Dès ce jour, ils résolurent de le faire. » Mourir. D'accord? Ils résolurent. C'est-à-dire qu'il y a eu préméditation, complot, acte délibéré, intention de faire mourir injustement le Christ, uniquement au nom d'un bien politique, c'est-à-dire éviter que la nation entière périsse. Ce qui s'ensuit après le procès devant le Sanhédrin, le procès devant Ponce Pilate, et on le verra ça rapidement, n'est qu'une mascarade. Ce ne sera qu'une mascarade, non pas pour traduire le Christ afin de rechercher la justice par rapport à ce qu'il aurait fait, mais dans le but uniquement de masquer, d'où le mot mascarade, voiler les intentions meurtrières des autorités juives. D'accord? C'est vraiment important. Alors il fallait donner l'apparence... Il fallait donner l'apparence d'un vrai jugement, d'un jugement authentique. Mais vous savez que l'apparence n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une apparence. Alors Jean ne nous dit pas comment ils allaient s'y prendre, hein, ces autorités juives. Il ne nous dit pas comment ils allaient vraiment s'y prendre. Parce que le problème, c'est que les autorités juives craignent le peuple. Hein, les évangiles nous le disent. Donc on ne pouvait pas agir en disant, allez, on va prendre le Christ et on va le lapider, parce que sinon ils allaient s'attirer la colère, l'impopularité de la foule. Ça allait être très problématique. Et même le soupçon que finalement, ils voulaient se débarrasser de Christ de manière meurtrières. D'accord ? Ils allaient être pris pour des meurtriers. Donc il fallait trouver une astuce tellement, si on veut, tellement, comment dire, tellement maligne, machiavélique, c'était le terme, j'allais utiliser ça, le terme, machiavélique, pour que les juifs, les autorités juives se disent, bah, nous on n'y est pour rien. D'accord ? Alors, il y avait bien sûr un autre motif qui était la jalousie. Alors, il y avait une stratégie qu'il fallait qu'ils mettent en œuvre. Et Luc nous dit, un peu, Jean ne le dit pas, mais parce que Luc l'a déjà fait un peu avant, Luc 20:20 nous dit que les principaux sacrificateurs et les scribes se mirent à surveiller Jésus. Ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi pour le prendre à l'une de ses paroles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on essayait de faire ? De trouver ce qu'on appelle un chef d'accusation. On allait essayer de manipuler les questions qui sont posées à Christ pour essayer d'en ressortir quelque chose et de le présenter après aux autorités pour dire, regarde, il est coupable d'une peine de mort. Donc, pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Intéressant. C'est-à-dire, leur stratégie ici est très simple. Il fallait le prendre à une de ses paroles et le porter non seulement devant les autorités juives, mais porter son cas jusque vers les autorités romaines, pour que Rome puisse aussi dire son mot et condamner le Christ. Parce que si Rome condamne le Christ, à ce moment-là, les autorités juives se disent quoi ? Mais regardez, ils pouvaient dire au peuple, mais regardez, c'est pas nous, c'est Rome. Il était criminel, non pas seulement aux yeux de la loi juive, mais il a été reconnu criminel aux yeux de Rome. Nous, on n'y est pour rien. Donc l'idée, cette intention, cette résolution de faire mourir le Christ, le but était de faire porter le chapeau à Rome. Donc toute une manigance, toute une manipulation pour se disculper. Donc Jésus est finalement livré, d'accord ? Jésus est livré, il passe devant le Sanhédrin, donc Judas, etc., on n'y revient pas, vous savez, et il passe devant le Sanhédrin, de nuit. Si un jour on vous fait comparaître de nuit dans un tribunal, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un problème procédural, hein, parce qu'en principe, c'est interdit d'avoir un procès de nuit. Les procès se passent de jour. Mais bon, donc, il passe devant le Sanhédrin, il est entendu par le Sanhédrin, et on voit que ce procès est cousu de fil blanc. Parce qu'on amène des témoins qui se contredisent. Il y en a un qui a dit oui, il a dit ça, l'autre il a dit ça. Et quand les témoins se contredisent, ça ne joue pas. On ne peut pas porter une accusation qui est véritablement crédible, n'est-ce pas ? Deux témoins, trois témoins, etc. Alors finalement, le souverain sacrificateur dit à Christ, je t'adjure, je te supplie, je t'implore, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, fils de Dieu. D'accord ? Je t'implore, dis-nous par le Dieu vivant si tu es le fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, tu l'as dit. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le fils de l'homme assis sur la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Bah ! Un message de majesté du fils de l'homme. Alors le souverain sacrificateur, qui est Caïphe cette année-là, déchira ses vêtements et dit, il a blasphémé. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Ça ne sert à rien de commencer à faire venir des témoins qui se contredisent. Nous avons un aveu, un blasphème public. Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous ? Ils répondirent tous, il est passible de mort. Et c'est vrai, dans Lévitique 24:16, selon la loi de Moïse, celui qui avait blasphémé contre le nom de l'Éternel devait être mis à mort par la lapidation. D'accord ? Alors, le chef d'accusation qui a été quelque part, si vous voulez, extorqué ou forcé, aux yeux, je dis bien aux yeux des hommes, aux yeux des autorités juives, c'était le blasphème. Parce que si on disait qu'on était fils de Dieu, on se prenait égal à Dieu, on se prenait pour Dieu, et donc on portait atteinte au nom de l'Éternel. Donc Lévitique 24:16 disait qu'il fallait lapider un tel homme, c'est blasphémer contre le nom de l'Éternel. Mais y a-t-il eu vraiment blasphème ? Non, parce que Jésus disait vrai. Oui, je suis le Fils de Dieu. il y a blasphème parce que les autorités juives, dans leur incrédulité, ne croyaient pas que le Christ était vraiment fils de Dieu. Donc ils se sont dit, il blasphème, et donc il est passible de peine de mort. Donc ça, très rapidement, nous voyons que devant les autorités juives, Jésus est passible de mort pour blasphème. D'accord ? Quelque chose qui est passible de peine de mort sous la loi de Moïse. Mais on sait qu'il ne s'agissait pas pour les autorités de s'arrêter là. Il fallait porter le cas de Christ devant le gouverneur Ponce Pilate. Alors, je vous pose la question. Si les autorités juives venaient avec ce chef d'accusation de blasphème sous la loi de Moïse, donc leur propre loi, pour demander à Ponce Pilate de le condamner, est-ce que Ponce Pilate allait s'intéresser à ce cas ? Non. Il aurait dit, mais ça, c'est un problème qui touche votre propre loi. En quoi cela concerne le droit romain ? Ça ne me concerne pas. D'ailleurs, Jean, dans l'Évangile, le premier réflexe de Ponce Pilate était, mais jugez-le selon votre propre loi, moi ça ne m'intéresse pas, cette histoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Dans leur manigance, il fallait changer de chef d'accusation. Il fallait désormais présenter le Christ devant Ponce Pilate en présentant des accusations qui allaient intéresser le droit romain. Parce que dire, écoute, il est condamnable, passible de mort selon notre loi, contre notre propre Dieu, pour blasphème, Ponce Pilate dit, oh, mais ça c'est votre Dieu, ça c'est pas mon Dieu, moi ça m'intéresse pas. Ils allaient être complètement, comment on dit, retoqués. Donc, il fallait un chef d'accusation qui intéresse le droit romain. Alors, Luc nous donne, c'est ça qui est intéressant, Luc nous donne trois chefs d'accusation que les principaux sacrificateurs et les scribes vont présenter auprès de Ponce Pilate. Dans Luc 23, 1 et 2, on nous dit « Ils se levèrent tous ensemble et conduisirent Jésus devant Pilate ». D'accord ? Ils se mirent à l'accuser et disaient « Nous avons trouvé celui-ci qui faisait trois choses. » Incitait notre nation à la révolte. Ah, la sédition. Ça commence à intéresser le droit romain. Hein. Ça, c'est troubler l'ordre public romain, l'ordre établi, la Pax Romana. Ça intéressait effectivement le droit romain. Hein. On n'aimait pas les émeutes, on n'aimait pas les révoltes. Donc, il y a déjà un élément plus intéressant. Ensuite, empêchait de payer l'impôt à César. Ah, c'est quelqu'un qui, en plus, encourage à la soustraction fiscale. Ça, c'est pas bon, ça, si les recettes s'amenuisent simplement parce que certains encouragent la soustraction fiscale. Et trois, et se disait lui-même Christ, non pas fils de Dieu, mais Christ roi. Et ça, c'est un troisième crime qui était considéré dans le cadre du droit romain, ce qu'on appelait le crime de lèse-majesté. Ça veut dire quoi, lèse-majesté ? Ça veut dire que on lésait, le mot léser, c'est-à-dire lésion, on portait atteinte à la majesté de l'empereur, de César. Pourquoi ? Parce que les peuples conquis, bien sûr, avaient leur propre autorité locale, bien sûr, ils pouvaient fonctionner, ces autorités locales, ces autres pouvaient fonctionner, mais le roi, le monarque ultime dans l'Empire romain par rapport à tous les peuples conquis, c'était l'empereur. Si quelqu'un se disait « moi, je suis le roi de cette nation au détriment de l'empereur », on pouvait le condamner à mort pour le crime de lèse-majesté. Et surtout, vous savez que les empereurs ont été souvent déifiés, ils étaient vus comme des dieux. Donc si en plus on portait atteinte à leur stature glorieuse de dieu-homme, quelque part, ça pouvait être très très grave. Donc les trois chefs d'accusation, si vous voulez, les trois crimes qui sont présentés ici, sont durement sanctionnés, étaient durement sanctionnés dans l'Empire romain. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux premiers, c'est-à-dire la révolte, le soulèvement, la soustraction fiscale, ça c'était monnaie courante. Ça, un peu partout, dans l'Empire romain, il y avait des soulèvements, les peuples conquis voulaient rechercher, aspirer à la liberté. Ça c'était monnaie courante, donc c'est vrai que rien vraiment d'original. Mais que quelqu'un se prétende roi, ça intéressait un tout petit peu plus, ou ça suscitait un peu plus l'intérêt de Ponce Pilate, parce que ça c'était assez original. C'était assez rare que quelqu'un, tout d'un coup, se prétende roi au sein d'une nation conquise. Donc, Ponce Pilate décide d'entendre le Christ, d'accord ? S'ouvre le volet du procès romain. Et donc, il va entendre le Christ. Et la toute première question, et on voit que des trois chefs d'accusation, celui de lèse-majesté, c'est-à-dire celui de se prétendre comme roi, intéresse le plus Ponce Pilate, puisque la première question qu'il va poser à Christ et qui nous est relatée dans l'Évangile, dans les Évangiles, c'est « Es-tu le roi des Juifs ? Est-ce vrai ce qu'on raconte ? Est-ce vrai que tu portes atteinte à la majesté de l'empereur ?» Et donc, le face-à-face commence. Alors, on ne va pas le commenter. Nous avons Jean qui nous présente ce face-à-face. Et vous vous rappelez, le Christ dit « Oui, mais mon royaume n'est pas de ce monde », etc., etc. Et puis, on nous dit, dans Luc 23, 4, après cette première audition, Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule « Je ne trouve rien de coupable dans cet homme. » Je trouve rien. C'est du vent, ce que vous m'invoquez. Je ne vois pas de problème de sédition, je ne vois pas de problème de soustraction fiscale, puis je ne vois pas de problème non plus de lèse-majesté. Mais le problème, c'est que les autorités juives insistent. D'accord ? Donc ils mettent Ponce Pilate dans l'embarras. Parce que Ponce Pilate voit une insistance forte des autorités juives à mettre à mort quand même le Christ, mais il n'a pas ce qu'on appelle l'intime conviction que le Christ est réellement coupable et condamnable à mort. Et puis, il entend un mot qui va lui faire, qui va se dire, j'ai peut-être trouvé ma porte de sortie, Galilée. Depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem, il soulève le peuple, etc. Il est galiléen. Oui, mais la Galilée, ça dépend, ça, c'est sous l'autorité d'Hérode. Super, je vais refiler la patate chaude à Hérode, n'est-ce pas ? Mais nous savons que l'audition devant Hérode, on nous dit, elle était assez longue, mais pas vraiment intéressante pour nous. Hérode reçoit le Christ pour voir s'il allait y avoir un quelconque miracle, et puis il dit, il n'y a pas de miracle, le Christ ne répond pas, il le fait gifler, puis il le retransmet à Ponce. Et donc Ponce Pilate se dit, mince, mais je me retrouve de nouveau avec ce fardeau, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Et puis, il y a de nouveau des échanges entre Ponce Pilate et le Christ, et par trois fois, on nous dit dans les évangiles, et on nous dit même que Ponce Pilate réunit les principaux sacrificateurs, les scribes et le peuple, il réunit tout le monde, et il leur dit, mais je n'ai rien trouvé de coupable en cet homme. Trois fois, il le dit, je n'ai rien trouvé contre lui. Il dit même, je l'ai interrogé même devant vous. Vous avez entendu cela, et moi je ne trouve rien contre lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il que deux chefs politiques romains, et on nous dit aussi, Luc nous dit aussi, que Hérode non plus n'a rien trouvé de condamnable. Donc vous avez Ponce Pilate, vous avez Hérode, deux chefs politiques romains qui ne sont pas du tout convaincu de la culpabilité de Christ. Mais comment se fait-il qu'il se fait crucifier quand même ? Pourquoi ? Mais nous voyons ici le rôle prédominant, essentiel, des souverains sacrificateurs et du peuple, de la foule, qui crie, crucifie-le. Trois fois, chaque fois quand Pilate, les trois fois quand Pilate est sorti en disant « je ne trouve rien en lui », il criait de plus belle « crucifie-le ». Et remets-nous Barabbas, parce que c'était une coutume à Pâques de remettre un meurtrier. Remets-nous Barabbas, le meurtrier, et crucifie le Christ. Crucifie le Christ. Et finalement, Ponce Pilate cède à la pression du peuple pour livrer le Christ à la crucifixion. Mais sans aucune conviction. Et le geste symbolique, n'est-ce pas, de se laver les mains est très parlant. Je dis, mais écoutez, mais moi, je ne suis pas convaincu, mais si vous voulez, je le livre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a ce cri de la foule, Jean nous donne quelques éléments supplémentaires. Il ne disait pas juste crucifie-le. On nous dit que les Juifs, donc la foule, disaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Donc on retrouve bien ce crime de lèse-majesté. Quiconque se fait roi se déclare contre l'empereur. D'accord ? Non, il a lésé la majesté de l'empereur. Et à la dernière fois, quand Pilate était vraiment en disant « Non mais je vais le relâcher parce que je ne vois rien de coupable en lui », à la fin il dit « Nous n'avons de roi que César ». Les Juifs disent « Mais nous n'avons qu'un seul roi, c'est pas lui, c'est César ». Et lui se dit notre roi, donc tu dois le crucifier parce qu'il porte atteinte à la personne de l'empereur. Et donc Pilate finalement, sans être convaincu, cède, il fait crucifier le Christ. Et vous savez, il y avait toujours cette coutume pour ceux qui étaient crucifiés de mettre le crime pour lequel le crucifié est condamné. Et ici nous avions Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, c'est-à-dire le crime de ce qu'on appelle lèse-majesté. Alors, une question se pose, c'est bien sûr, alors, Pilate n'était pas convaincu de la culpabilité, juste peut-être un petit mot, c'est que ce cas n'est pas isolé dans l'Empire romain. Il arrivait souvent que les gouverneurs qui devaient rendre la justice cédaient aux pressions du peuple. Que ce soit pour innocenter ou pour mettre à mort, simplement parce qu'ils voulaient calmer les ardeurs et le but pour eux, était beaucoup plus, parce que les gouverneurs étaient nommés directement par l'empereur, donc une nomination très prestigieuse. Donc le but pour eux, la préoccupation essentielle, c'était de se maintenir en poste, de se préoccuper beaucoup plus de leur carrière politique que de rechercher véritablement la justice. Et Ponce Pilate, dans sa faiblesse, comme il a été nommé directement par l'empereur, voulait plus se maintenir en position que réellement s'embarrasser en disant ouais, « bon, il est coupable, pas coupable, mais moi je dois calmer les ardeurs de la foule, je veux me maintenir en poste ». Et malheureusement, Jésus-Christ a été victime de cette ambition-là du gouverneur, alors même qu'il n'avait pas l'intime conviction qu'il était effectivement coupable. Donc parce qu'on peut se poser la question, j'explique cela, parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi Ponce Pilate finalement l'a condamné alors qu'il n'avait pas cette intime conviction ? Et Marc 15:15 conclut, Pilate voulut satisfaire la foule, elle leur relâche Barabbas et livre le Christ pour être crucifié. Donc, une question se pose quand même, et on revient à notre passage dans Actes. C'est que comment se fait-il que la foule, cette foule qui une semaine auparavant acclamait le Christ roi quand il rentrait sur un ânon, désormais crie, crucifie-le. Qu'est-ce qui s'est passé que la foule a basculé comme ça en quelques jours d'une acclamation vers une demande de mise à mort ? Alors, on nous dit, c'est Matthieu qui nous donne un élément précieux. Si je le retrouve, il faut que je le retrouve parce que sinon j'ai encore 5 minutes, même 7. Alors Matthieu 27:20 nous dit, et ça c'est vraiment très important, que les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Donc on ne sait pas comment ces principaux sacrificateurs s'y sont pris, on ne sait pas comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont proliféré des menaces? Est-ce qu'ils ont fait des promesses? Est-ce qu'ils ont essayé de dire « mais il y a un danger si le Christ reste en vie ?» il est un danger pour la nation. On ne sait pas comment ils sont pris pour persuader la foule. Mais les souverains sacrificateurs travaillaient la foule. Ils ont travaillé la foule. Et sans doute il y avait de la fourberie, sans doute il y avait de la manipulation. Et la foule, en tant que mouton, le peuple en tant que mouton, a cédé puis a dit « Ah ben si les autorités juives disent qu'il faut crucifier, bon, on crie aussi, on va crucifier. » Alors qu'une semaine avant, on criait « Fils de David, Hosanna !» D'accord ? Donc, vous voyez la manigance des autorités juives sur les deux fronts, vis-à-vis de Ponce Pilate pour faire porter le chapeau et vis-à-vis de la foule pour que finalement la foule fasse céder Ponce Pilate. Alors bien dans notre passage, je vous avais dit que je passerai beaucoup plus de temps là-dessus, parce qu'il faut comprendre maintenant ce que dit Pierre, parce qu'une partie de cette foule qui criait crucifie-le, se retrouve désormais au portique de Salomon. Et c'est à cela que Pierre va s'adresser. Et ils ont vu la guérison de ce paralytique au nom du Christ Jésus de Nazareth. Pierre a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et qu'est-ce qu'il y avait comme écriteau sur la croix ? Jésus de Nazareth, roi des Juifs, crucifié. Et ils criaient, crucifie-le, crucifie-le. Et maintenant, Pierre va s'adresser à eux et va leur dire, vous avez livré. On comprend mieux pourquoi il leur dit, vous avez livré. Et renié le Christ devant Pilate qui avait jugé bon de le relâcher. On a vu 4 fois la première audition, je ne vois rien. Il l'envoie chez Hérode, retour chez Ponce Pilate, et encore 3 fois où il dit, mais je ne vois rien de condamnable en lui. Il jugeait bon de le relâcher. Mais qui criait de plus belle à chaque fois ? Le peuple. Crucifie-le, crucifie-le. Donc, vous avez renié, vous avez livré devant Pilate le Christ. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier, Barabbas. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Ne pensez pas que vous allez pouvoir vous disculper, vous, peuple. Ne pensez pas que la responsabilité réside uniquement sur les autorités juives, ou sur la faiblesse de Pilate, ou sur les soldats romains qui ont exécuté la sentence. Vous aussi, vous Israélites, vous avez aussi votre part de responsabilité, vous avez aussi du sang sur vous. Mais quelqu'un dira, ah oui, mais Pierre, mais tu sais, mais c'est pas de notre faute, hein, c'est les autorités juives. C'est elles qui nous ont dit de crier, c'est elles qui nous ont convaincus. Tu sais, on n'avait pas vraiment le choix, ce sont nos autorités, elles ont dit de crier avec nous, avec eux, crucifie-le, crucifie-le. Hein, on pourrait se dire, mais c'est pas de notre faute. Et qu'est-ce que dit Pierre ? Ah oui, je sais que vous avez été ignorants, mais l'ignorance n'est pas une excuse devant Dieu. L'ignorance n'est pas une excuse devant Dieu. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc Pierre met le peuple face à ses responsabilités. Et je pense qu'aujourd'hui, pour nous, il ne faut pas penser non plus que ceux qui ont pris part directement à la crucifixion de Christ, c'est eux les coupables. On sait très bien que nos péchés aussi l'ont mis sur la croix. Et nous avons tout autant besoin de repentance et de conversion continuellement. Hein, tant que nous marchons dans la lumière du Christ, comme nous dit 1 Jean, nous sommes lavés continuellement de nos péchés. Nous avons tout autant besoin de cette repentance, de cette conversion, que ceux à l'époque qui ont été directement impliqués dans la crucifixion du Christ. Maintenant, regardez les qualificatifs que Dieu donne sur Christ. Christ a été jugé, si on devait ouvrir les archives judiciaires, on aurait vu criminel, crime de lèse-majesté. Bon, ces archives n'existent plus, mais il est resté comme ça. Il était condamné aux yeux des hommes en tant que criminel. Mais devant Dieu, quels sont les qualificatifs que Pierre évoque concernant le Christ ? Le serviteur de Dieu glorifié. Hein, c'est un lien avec Ésaïe 52, on parle de ce serviteur qui va venir. Le saint, hein, le Christ qui est pur, sans défaut, sans tache. Le juste, il a été juste, mais avait un procès injuste. Il était juste, sans fraude, innocent. Et enfin, le prince de la vie. Ce prince de la vie, vous l'avez fait mourir. Que signifie prince de la vie ? Ça veut dire quoi quand on dit que Christ est le prince de la vie ? Alors ce mot prince ici est archégos, qui signifie l'auteur. Donc il est l'auteur de la vie. Et vie ici, on a déjà vu ça une fois, vie ici est traduit par le mot grec, enfin est utilisé dans le mot grec zoès. Zoès, et pas bios. Vous vous rappelez, on a déjà vu bios signifie la vie physiologique, la vie chimique, si vous voulez. Hein. Bios de le mot biologie, biologos, c'est-à-dire la science, l'étude de la vie, mais de la vie dans son sens mécanique, physiologique. Alors que zoès, c'est un mot qui parle de la vie spirituelle, divine. Hein, où il y a une intervention divine. Donc il est l'auteur de la vie. Pourquoi il est l'auteur de la vie ? Parce que Dieu l'a fait ressusciter d'entre les morts. Et il est les prémices de la résurrection. Il est les prémices de notre résurrection. Et comme il est les prémices de notre résurrection, il est l'auteur de la vie, l'auteur de notre vie éternelle. Donc Pierre, et on va terminer là, donc Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous quand même, parce que vous avez été ignorants, ainsi que vos chefs et vous, vous avez été ignorants, mais repentez-vous quand même. Et il dira que leur repentance aura des effets, et le fruit de cette repentance aura des effets jusque vers ce qu'on appelle les temps de rafraîchissement ou de rétablissement. Hein, mais il dit, il faut que le Christ reste au ciel jusqu'à ces temps-là. Alors c'est intéressant quand on parle du mot rétablissement, rafraîchissement. Il y a d'autres mots qu'on utilise, rédemption, rachat, renouveau, réconciliation. C'est-à-dire que le plan de Dieu n'est pas d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, mais de revenir à quelque chose qui a été, de revenir à cette communion pure, sans tache, sans péché, sans médiation. Aujourd'hui, on a une relation avec le Père au travers du Christ. Dans la loi de Moïse, il y avait le souverain sacrificateur qui intercédait pour le peuple. Il y avait toujours une médiation. Mais un jour, cette médiation se terminera et au temps du rétablissement, nous aurons une communion face à face. Et c'est ça qui importe. Alors il cite Moïse, Abraham, Samuel, les tout grands. Et en conclusion, ce qu'on peut dire simplement, c'est que dans ce passage, Luc nous donne vraiment un bel exemple et une illustration précieuse de comment les apôtres et l'Église du premier siècle proclamaient l'Évangile. Comment ils proclamaient l'Évangile. Et moi, ce qui me frappe, vraiment, je ne sais pas si ça vous a frappé ou pas, mais ils ne proclamaient pas uniquement le Christ, mais ils appelaient les gens à la repentance. Ils appelaient vraiment les gens à changer de vie. C'était pas juste, vous savez, le Christ a fait ça, et pour vous, si vous l'acceptez, c'est bien parce que vous aurez toutes ces bénédictions. Non, c'est pas ça qu'il disait. Vous acceptez le Christ, mais vous devez changer. Changer de vie, repentez-vous. Ce passage dans Pierre est très, on peut le mettre en parallèle avec le serment de Pierre le jour de la Pentecôte, là aussi, repentez-vous. Alors quelqu'un dira, oui mais ça c'est Pierre qui dit ça à ses concitoyens, donc il pouvait se permettre. Oui mais Paul, quand il parlait aux Athéniens, on verra ça hein, dans Acte 17, aux païens, il leur présente bon nombre de faits sur Dieu, et à la fin qu'est-ce qu'il dit? Mais maintenant, Dieu appelle à la repentance les hommes en tout lieu. Il les appelait aussi à la repentance. Alors, c'est peut-être une réflexion, je ne fais pas de reproche hein, dans notre façon d'évangéliser, ce n'est pas ça, mais c'est peut-être une réflexion pour moi que je me suis menée. Est-ce que nous sommes suffisamment percutants? Est-ce que nous sommes suffisamment tranchants dans notre message, dans notre proclamation aujourd'hui? Est-ce que nous appelons les gens à la repentance? Est-ce que nous appelons les gens, vous savez, si vous acceptez le Christ, il faut changer, hein? Alors quelqu'un dira, oui mais ça c'est offensant, ça on ne peut pas tellement se le dire parce que ça va offusquer l'autre. L'autre va dire, mais qui t'es-toi pour me dire que je dois changer ma vie? Hein? Qui tu es? Moi j'éduque bien mes enfants, j'ai un bon travail, je fais des œuvres de bienfaisance, je suis un homme bon, pourquoi je dois changer de vie? Mais la personne qui change de vie ne change pas de vie pour moi, c'est pas pour ma volonté. On doit appeler les gens à la repentance parce que c'est la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui est plus important? De faire la volonté de Dieu ou éviter d'offenser les gens? Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Alors peut-être une réflexion, un bel exemple de la prédication de l'Évangile au premier siècle. Et rappelons-nous, l'ignorance n'est pas une excuse devant Dieu. Je vous remercie.
Alors, je vais parler plus fort parce qu'on va couper le micro. Si vous voulez vous mettre debout, on va chanter, s'il vous plaît.